ce matin l'impôt des personnes physiques et le dernier point de la section sur le calcul de l'impôt des personnes physiques, ça va aller très vite, et puis nous allons commencer le dernier chapitre de cette partie sur l'impôt des sociétés. Comment ça se termine le calcul? Mais nous avions donc une base imposable globalement. Je simplifie bien entendu comme d'habitude un petit peu. Nous avions une base imposable. On a, suite à ça, appliqué le barème et on a un petit PP de base. On a appliqué le barème. IPP de base, y compris avec la tranche à 0%, le cas échéant augmenté pour des raisons familiales ou conjugales. On a enlevé de tout ça les réductions d'impôts. On ajoute à ça les cotisations distinctes, certaines d'entre elles. Les cotisations distinctes, qui sont les situations où les revenus sont imposables distinctement, les taux particuliers que nous avons vus, par exemple les 33% sur les profits occasionnels, on ajoute les cotisations distinctes. On va ensuite ajouter la majoration pour éventuel ou versement anticipé insuffisant. Vous vous souvenez, les indépendants personnes physiques doivent faire des versements anticipés. S'ils n'en font pas correctement, il y aurait une majoration. Qu'est-ce qu'on va ajouter à tout ça? On va faire les imputations. On va soustraire les imputations. Les imputations de quoi? Mais des éléments qui ont déjà été payés, tels que les versements anticipés. Ceux qui ont été effectués, on va les imputer. Donc soustraire de l'impôt. On va imputer le précompte professionnel, bien entendu. Alors, on va soustraire aussi la bonification pour excédent de versements anticipés. Le système fonctionne dans les deux sens. Si j'en fais trop peu, j'ai une pénalité qu'on appelle majoration. Si j'en fais trop, je reçois une bonification d'intérêt. En dehors, bien entendu, du fait que le montant payé est imputable, mais le montant excédentaire donne lieu à une bonification d'intérêt. C'est d'ailleurs un bien meilleur placement que... bien meilleur placement qu'un carnet d'épargne dans une banque. Le taux est meilleur auprès de l'État à faire des versements anticipés excédentaires. Et on peut le faire même quand on n'est pas soumis à l'obligation. Donc un salarié ne doit pas faire de versements anticipés, mais s'il en fait, eh bien, il va recevoir une bonification d'intérêt qui est meilleure que dans les banques. Et qu'est-ce qu'on va encore faire? On va ajouter la taxe communale additionnelle. La taxe communale additionnelle va être ajoutée sur quel montant elle s'applique sur l'IPP de base, moins les réductions d'impôts et une petite partie des cotisations distinctes. La taxe communale additionnelle, c'est sur l'IPP de base, moins les réductions d'impôts, et plus une partie des cotisations distinctes. Et donc sur ce montant-là, on ajoute la taxe communale additionnelle, qui va de 0% dans quelques communes, jusqu'à 10-11% dans d'autres. 10-11%, pas de la base, mais de l'impôt. C'est une taxe communale additionnelle. Tout ça va faire un solde, donc je n'ai plus de place, je l'écris ainsi, ça va faire un solde qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être un solde à payer ou un solde à rembourser. Dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, c'est un solde à rembourser. C'est un solde à rembourser. Et quand est-ce que ce solde sera à payer ou sera remboursé? Mais 2 mois après l'enrôlement. 2 mois après que le montant a été fixé, a été communiqué par un avertissement extrait de rôle, eh bien, il doit être payé ou il sera remboursé spontanément par l'État. J'en ai ainsi enfin terminé de l'impôt des personnes physiques, qui était mon deuxième chapitre de cette partie fiscalité. Le premier chapitre, c'était le panorama général de la fiscalité belge. Le deuxième chapitre, c'était l'impôt des personnes physiques. Et nous arrivons ainsi au troisième chapitre, l'impôt des sociétés. Impôt des sociétés. J'en profite quand même pour signaler que est paru sur le site de la Chambre hier le texte du projet de code des sociétés et des associations tel qu'il a été voté en commission à la Chambre. Donc le texte est maintenant très stabilisé par rapport à la partie enseignée par Patrick De Wolf. Vous avez donc maintenant un document plus à jour sur le site de la Chambre des représentants. Le voilà. 533 pages. Troisième chapitre, l'impôt des sociétés. Tout d'abord, je voudrais faire une petite remarque liminaire avant de vraiment commencer cette matière. On est actuellement dans une phase, dans une montée progressive de la réforme de l'impôt des sociétés de la loi du 25 décembre 2017. Donc, on a une loi de réforme relativement importante, loi du 25 décembre 2017. C'est un peu cruel pour Philippe, qui a dû travailler autour de Noël à signer cette loi. Et cette loi de réforme prévoit qu'il y a des phases successives. Ce n'est pas en une fois. Alors, je ne vais pas exposer les choses en disant « cette année-là, il y a ça, l'année prochaine, ce sera autrement », ce d'autant plus que, en ce qui vous concerne, vous n'êtes pas sur le marché de l'emploi ou entrepreneur pour la plupart d'entre vous aujourd'hui. Vous le serez plutôt dans quelques années. Donc, je vais prendre la législation telle qu'elle, aujourd'hui, on peut la prévoir, mais pour l'exercice d'imposition 2021. Exercice d'imposition 2021, ça veut dire des revenus 2020. Bon, si ça ne se termine pas le 31 décembre, l'exercice comptable, il y a des règles particulières, mais nous simplifions. Donc, je prends la législation de l'exercice d'imposition 2021 telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je fais grâce de toutes les phases transitoires. Et nous attaquons avec une première section, les principes de l'impôt des sociétés. Il y aura ici également un résumé il y aura un résumé qui sera placé avant Noël, sur Moodle. Donc, premier point, première section de ce chapitre, les principes de l'impôt des sociétés. Premier principe, l'impôt des sociétés frappe les sociétés résidentes. Les sociétés résidentes. C'est quoi une société résidente? C'est une société qui est dirigée depuis la Belgique. C'est celle qui a son siège réel en Belgique. Pas une simple boîte aux lettres. Pas non plus, mais par contre sont visées les sociétés qui prétendent être à l'étranger et qui en réalité sont administrées depuis la Belgique. Bon, c'est un point qui n'est pas compliqué pour la plupart des sociétés. Hein, pour la plupart des sociétés, le siège statutaire et le siège réel, ben, ça correspond. Toutes les sociétés dans ma famille sont toutes des sociétés qui ont leur siège effectif et statutaire en Belgique. Mais il peut y avoir d'autres situations. Il peut y avoir des situations en particulier de gens qui mettent leur siège dans un paradis fiscal, hein, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas d'impôt des sociétés, mais en réalité, ils administrent tout depuis la Belgique. Ils n'ont jamais mis les pieds aux îles Vierges britanniques. D'ailleurs, ils ne savent même pas où c'est. Eh bien, ça sera soumis à l'impôt belge, si le fisc l'apprend. Si le fisc l'apprend. Et c'est quoi le siège effectif? Mais c'est vraiment l'endroit d'où c'est dirigé. Où se réunit le conseil d'administration? Où tient-on les comptes? Où reçoit-on la facture du site internet de la société, etc., etc. Alors, c'est aussi quoi une société? Eh bien, une société, c'est une personne morale, sauf exception. Il y aura des personnes morales, particulièrement un certain nombre de personnes morales sans but lucratif, et donc ça vous renvoie au fait de code des sociétés, des associations. Il y a un certain nombre de personnes morales sans but lucratif, mais pas toutes, qui seront, elles, pas soumises à l'impôt des sociétés. L'impôt des sociétés, je ne vais pas approfondir cette matière extrêmement complexe qui mériterait une heure d'exposer, mais la plupart des ASBL ne seront pas soumises à l'impôt des sociétés. Parce qu'elles satisferont aux critères fiscaux d'une personne morale sans but lucratif. Et de nouveau, et donc ces entités-là seront soumises à un autre impôt qui s'appelle l'impôt des personnes morales. Donc l'impôt des sociétés, c'est en principe pour des personnes morales à but lucratif. Et celle sans but lucratif, c'est plutôt l'impôt des personnes morales. Mais ici aussi, bien entendu, le législateur veut éviter les abus. Il veut éviter qu'une ASBL, qui n'est en réalité qu'un restaurant, soit... ou une boîte de nuit, ou je ne sais trop quoi, que ça soit à l'impôt des personnes morales, qui est plus favorable dans beaucoup de cas, qu'à l'impôt des sociétés. Donc ça, c'était mon premier point, premier principe, l'impôt des sociétés vise les sociétés résidentes au sens d'entités à but lucratif. Deuxième principe, et c'est l'article 183 du Code, les revenus soumis à l'impôt des sociétés sont en principe définis de la même manière que les bénéfices des entreprises personnes physiques. Les revenus des sociétés sont en principe les mêmes que ceux qu'aurait une entreprise personne physique, au sens d'entreprise, au sens fiscal. Rappel, c'est un grand tuyau pour les domaines dans les QCM, la notion d'entreprise, hein, parce que on retrouve ça à beaucoup d'endroits, y compris au niveau fiscal. Et donc, par exemple, une des conséquences de ce principe, c'est que on va être imposé sur les produits et non pas sur les recettes. Nous avons vu ça ensemble à l'impôt des personnes physiques. Une entreprise est soumise aux produits, est imposable sur ses produits et pas seulement sur ses recettes. Un concept comptable déjà vu en premier bloc annuel de bac. Troisième principe applicable à l'impôt des sociétés, qui n'est pas nouveau et qui est finalement fort lié au deuxième, c'est la notion de primauté du droit comptable. Particulièrement à l'impôt des sociétés, on va appliquer cette idée qu'à défaut de disposition fiscale express, on va appliquer les règles comptables. C'était le fameux arrêt de la Cour de cassation de 1997, dont je vous ai déjà parlé, vous vous souvenez? Oui? L'arrêt de la Cour de cassation sur les comptes de régularisation, avec les produits à reporter, eh bien, la loi fiscale ne prévoit pas les produits à reporter, mais le droit comptable, oui. Donc, une entreprise a le droit de déduire le montant brut de ses produits, a le droit de déduire les produits à reporter, même si la loi fiscale ne le dit pas. Dans le silence de la loi fiscale, on applique les règles de droit comptable. Principe suivant, c'est qu'une société est en principe imposable sur tous ses produits. Sur tous ses produits. Le système est ici contraire à celui de l'impôt des personnes physiques. L'impôt des personnes physiques, on énumère ce qui est imposable et ce qui n'est pas dans l'énumération ne l'est pas. Gagner à l'euro million n'est pas imposable une personne physique parce que on cherche, c'est pas un revenu immobilier, c'est pas un revenu professionnel et c'est pas un revenu divers, donc pas imposable. Pour une société, c'est le contraire. Tous les produits sont imposables à l'exception de ceux que le code déclare non imposables. Donc une société gagne à l'euro million, c'est imposable. C'est bien pourquoi les sociétés ne gagnent jamais à l'euro million. Si jamais il y a un billet gagnant, hop, il passe dans la main d'une personne. Les sociétés perdent toujours à l'euro million. Toujours. Encore faut-il bien entendu convaincre que c'est des frais professionnels. Acheter un billet. Principe suivant, c'est que l'impôt est un impôt proportionnel. C'est un impôt proportionnel, fondamentalement. Et dont le taux est, nous sommes en 2020, nous sommes en 2020, et dont le taux est, je devrais dire sera, et dont le taux est 25%. L'année dernière, il était de 33,99. L'année dernière, la vraie année dernière, 2017. Donc, un taux proportionnel de 25%. Par opposition donc à l'impôt des personnes physiques, où il est progressif par tranche. Nous le savons, une tranche à 0, 25, et ainsi de suite. Donc, pourquoi cette différence? Pourquoi pour l'impôt des sociétés, il est proportionnel? Mais parce qu'une société, elle a une capacité contributive qui ne varie pas en fonction de la hauteur de ses revenus. Pourquoi, vous vous souvenez, à l'impôt des personnes physiques, cette progression par tranche? Parce qu'on estime qu'il y a un niveau de revenu qui est indispensable pour vivre. Il n'y a pas moyen de payer de l'impôt sur les tout petits revenus. Et plus les revenus croissent, plus on a le confort qui permet de payer l'impôt. C'est la justification. Ça ne vaut pas pour une société. Une société n'a pas besoin de manger, de dormir, de se chauffer. Tout ça n'existe pas. D'où le principe que c'est un impôt proportionnel. Au taux actuellement, sommes en 2020, exercice d'imposition 2021, de 25%. Ce qui rend la Belgique compétitive à ce point de vue-là. C'était l'un des grands objectifs du gouvernement en fin de vie et du ministre des Finances, c'est une attractivité suffisante sur le plan international pour la Belgique. Et avec 25%, on est bien mis, relativement bien mis, par rapport à la situation aujourd'hui. Donc, on y sera en 2020, on n'est qu'en 2018, et donc notre taux de 2020 sera un taux qui est pas mal par rapport aux autres en 2018. Mais on va voir ce qu'ils vont faire, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'ici là, nos concurrents? Est-ce qu'ils ne vont pas, je ne sais pas moi, le Royaume-Uni, le 29 mars prochain, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vouloir compenser d'autres choses en réduisant son taux. Qui sait, peut-être en réduisant son taux comme au niveau du taux de l'Irlande. C'est que de 12,5. L'Irlande est à 12,5 aujourd'hui. Bien. Alors, il y a quand même une chose, une exception à cela, c'est que pour certaines petites sociétés, lesquelles nous verrons plus tard, pour certaines petites sociétés, ben, le taux, il est de 20%. Mais nous y reviendrons. Et dernier principe que je voudrais voir dans cette première section, c'est qu'il n'y a pas d'indexation en principe, je ne sais pas dire en principe parce qu'il y a toujours des exceptions en matière fiscale, en principe, il n'y a pas de principe d'indexation à l'impôt des sociétés. Pourquoi ? Parce que l'impôt est proportionnel. L'impôt 25%, ben, et parce qu'il n'y a pas cette question de capacité contributive. Donc, on n'indexe pas les montants, mais attention, parfois l'impôt des sociétés se réfère à l'impôt des personnes physiques. Parfois, il s'y réfère en disant la première tranche d'autant est sous bénéficie de ceci. On dit ça à l'impôt des personnes physiques et on l'applique aussi à l'impôt des sociétés. À ce moment-là, c'est indexé. Si l'impôt des sociétés fait référence à un montant à l'impôt des personnes physiques, c'est logique. Comme le montant à l'impôt des personnes physiques est indexé, mais il le sera aussi à l'impôt des sociétés. Mais les montants spécifiques à l'impôt des sociétés ne sont normalement pas indexés. Voilà donc pour notre première section, les principes à l'impôt des sociétés. Nous passons à une deuxième section qui est consacrée à l'architecture fondamentale de cet impôt. Alors, la base imposable à l'impôt des sociétés, c'est l'addition de, tout d'abord, de trois éléments. On va additionner le mouvement des réserves imposables, on va additionner les dividendes distribués et l'on va additionner les dépenses non admises DNA après déduction officielle. Et cela va faire, l'addition de ces trois-là va faire les bénéfices imposables. Et ensuite, on va faire un certain nombre de soustractions avec les régimes transitoires, on est 9 soustractions. On va faire un certain nombre de soustractions telles que des éléments exonérés, tels que la perte fiscale antérieure, etc., etc. Je pourrais dire les autres, évidemment, mais si je vous dis revenu définitivement taxé, ça ne vous dira rien, ça m'oblige à anticiper trop sur la suite, hein, tandis que élément exonéré, tout le monde comprend bien ce que ça peut être un élément exonéré. Hein. Un exemple d'élément exonéré, faire une libéralité à l'Université catholique de Louvain. Tout don de 40 euros et plus donne droit, etc., eh bien voilà. Donc si une société fait un don à l'UCN, l'UCN Louvain, ça sera un élément exonéré. Eh bien au moins. Et on arrive ainsi à la base imposable. Voilà donc le schéma de l'impôt des sociétés, son architecture fondamentale. Et puis, quand on a la base imposable, l'impôt est proportionnel, 25%, et c'est fini quasiment. L'impôt des sociétés est beaucoup plus simple que l'impôt des personnes physiques. L'impôt des sociétés, normalement, on doit être capable de le calculer. D'ailleurs, à la déclaration de l'impôt des sociétés, le contribuable doit calculer cet impôt. Il doit calculer en tout cas sa base imposable. Et puis calculer l'impôt, c'est bien tellement facile. À l'impôt des personnes physiques, ce n'est pas du tout le cas. C'est l'administration qui va faire le calcul de la base imposable. À l'impôt des sociétés, c'est beaucoup plus simple, mais plus conceptuel. Plus conceptuel, parce que mouvement de réserve imposable, c'est un peu conceptuel. Alors, par rapport à cette architecture fondamentale, je voudrais bien entendu la commenter, et tout d'abord par rapport aux résultats comptables. Le résultat comptable, mais lui, comment est la conception du résultat comptable? On a un résultat à affecter, au niveau comptable, qui, s'il est positif, qu'est-ce que je peux en faire? Ce résultat à affecter, je peux le mettre en réserve. Qu'est-ce que je peux en faire d'autre? Je peux distribuer des dividendes. Qu'est-ce que je peux en faire d'autre? Distribuer des tantièmes. Et par mise en réserve, c'est sous la dose, s'il vous plaît, hein, puisqu'il y a une petite distinction entre les bénéfices reportés et les réserves disponibles, par exemple, mais c'est quand même une distinction qui est faible. Hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hein, la seule différence entre le bénéfice reporté et les réserves disponibles, c'est le fait que dans les sociétés anonymes, le conseil d'administration peut distribuer le bénéfice reporté, mais pas les réserves disponibles, sans organiser l'Assemblée générale. C'est vraiment une distinction légère. Donc, mise en réserve, c'est sous la tête. Alors, si je compare cette approche de résultat comptable avec l'approche fiscale, ben je peux jouer au jeu des 7 erreurs. Je peux, par exemple, constater que les dividendes, c'est des deux côtés. Dividendes, ici, dividendes, là. Les dividendes font partie du résultat comptable et du résultat fiscal. Sauf exception. Par ailleurs, il semble que mouvement des réserves imposables et mise en réserve sensu lato, ça semble très proche. Et nous verrons ultérieurement que là, il y a vraiment des grosses exceptions, il y a des grosses différences. Il y a des grosses différences quand même. Mais le principe est proche. Mise en réserve comptable et réserve imposable. Je vous rappelle à cet égard que les réserves immunisées, ce n'est pas une affectation possible du résultat. Les réserves immunisées d'impôt, donc il faut se souvenir des règles de la comptabilité. Je suis conscient qu'il y a quelques étudiants ici qui n'ont pas eu de cours de compta avant, qui ne sont pas en économie de gestion, en ingénieur de gestion, mais ça, ça fait partie du système qu'un cours est organisé pour un public, économie de gestion avec ingénieur de gestion, que d'autres facultés demandent de les emprunter, dont acte. C'est pas... Les autres facultés ont souhaité emprunter ce cours, mais les étudiants, plutôt que d'organiser un cours spécifique, mais voilà, ça fait partie un peu du risque de la chose. Et donc, mais je ne vais pas non plus spécialement pointer ce problème-là dans les questionnaires d'examen. Et donc, je suis conscient que certains d'entre vous ici pourraient ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, réserve immunisée, ce n'est pas une affectation du résultat comptable. Vous le savez, ça vient avant. Ça vient avant les réserves immunisées. Donc là, ce n'est pas une différence. Réserve imposable et réserve immunisée, c'est évidemment différent. Mais les réserves immunisées ne sont pas dans la mise en réserve. Les réserves immunisées sont des réserves non imposables. Alors ensuite, j'ai des vraies différences. J'ai ici les DNA. Les dépenses non admises. Qu'est-ce que c'est d'abord les dépenses non admises? Nous aurons l'occasion d'en voir le détail dans une section ultérieure. Mais les dépenses non admises, ce sont en réalité des charges non admises. Hein. Des charges, pas des dépenses. C'est le vieux mot. La fiscalité utilise toujours un vieux mot parce que ce concept existe depuis 1913 en fiscalité. Alors que le droit comptable, il est né en 1975. Et donc, en fiscalité, le code fiscal n'a pas attendu que la comptabilité voit le jour du point de vue légal. Et donc, il y a ici deux termes différents, mais qui veulent dire la même chose. Les dépenses non admises sont en réalité des charges non admises, c'est-à-dire des éléments qui sont vus en diminution du bénéfice comptable, mais qui sont refusés au niveau fiscal. Exemple. J'en donne juste un exemple aujourd'hui. Une société paye les amendes de roulage de ses dirigeants et de ses employés. Paye les amendes de roulage. Parce qu'il est bien content que le dirigeant ou le préposé, il est arrivé à l'heure, même s'il a fait des excès de vitesse. Et donc, la société paye. Elle peut faire ça. C'est parfaitement autorisé en Belgique. Du point de vue du droit des sociétés. Eh bien, du point de vue fiscal, on ne permet pas la déduction des amendes de roulage. Ce n'est pas autorisé de déduire fiscalement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le résultat affecté, ça n'y est plus. Ça n'y est plus, les amendes. Puisqu'elles ont été déduites en charge, elles ne font pas partie du bénéfice. Au niveau fiscal, il faut qu'elles y soient. Donc, on les remet. On les rajoute. Donc, voici déjà une différence importante entre le résultat comptable et le résultat fiscal. C'est toutes ces dépenses non admises. Les dépenses non admises ne sont pas dans le résultat comptable, elles seront dans la base imposable. De l'autre côté, je peux affecter mon résultat en tant qu'iel. Je peux affecter ça en tant qu'iel. Les tantièmes, hein, ce sont des bonus donnés aux dirigeants. Chers administrateurs, vous avez bien fait. Nous allons vous donner partie du bénéfice que vous avez contribué à créer. L'étendienne. Mais l'étendienne font partie du résultat comptable, puisque c'est à partir du résultat comptable qu'on donne l'étendienne. Je ne les trouve plus ici. Ici, ils ne sont pas. Et en effet, les tantiennes sont déductibles fiscalement et pas comptablement. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, vous voyez que résultat comptable et résultat fiscal, il y a déjà des différences. Ah, et puis, je n'ai pas fini. J'ai ici toute une série de soustractions qui sont purement fiscales, qui n'ont rien à voir avec la compta, enfin, pas rien à voir, mais qui sont fiscales. Donc, il y a des rapprochements comptabilité-fiscalité, mais il y a fondamentalement qu'à la fin, ça sera par hasard, enfin pas par hasard, mais ce sera rare, que la base imposable soit égale au résultat comptable. Ce sera rare. Alors, nous faisons de la fiscalité, pas seulement du droit fiscal. On pourrait donc se poser la question, est-ce lequel des deux est le plus grand ? Dans la plupart des cas, est-ce que c'est le résultat fiscal, la base imposable qui est la plus grande, ou le résultat comptable? Bien entendu, ça dépend. Ça dépend d'un cas à l'autre. Mais il y a quand même une grande tendance qu'on peut observer. Et qui est la suivante. Mais c'est que d'une part, les plus grandes entreprises ont tendance à avoir une base imposable inférieure au résultat comptable. On le décrit souvent. Que les plus grandes entreprises, elles ont une base imposable ridicule par rapport à leurs bénéfices comptables. Chaque année, le PTB met ça en exergue. C'est peut-être le seul élément vrai de leur discours. Et pourquoi est-ce que les grandes entreprises ont une base imposable souvent beaucoup plus petite que leur résultat comptable? Eh bien, à cause de tout ceci, tout ce qui va être déduit là par les pertes antérieures, mais d'autres choses dont je n'ai pas parlé encore, il va y avoir au niveau des grandes entreprises une exploitation importante des opportunités de déduction offertes par la Belgique. Et parce que les grandes entreprises sont aussi beaucoup des entreprises multinationales, internationales. Et donc, elles voient des opportunités dans la législation belge, hop, elles en profitent. Et on a alors ce qu'on appelle le taux effectif par rapport au taux nominal. Le taux nominal de l'impôt, c'est 25%, avons-nous déjà dit. Le taux effectif, c'est-à-dire l'impôt payé, 67 dans les comptes annuels, 67 par rapport au résultat avant impôt dans les comptes annuels, eh bien, c'est très souvent bien inférieur à 25%. aller voir, par exemple, la plus grande entreprise belge par le chiffre d'affaires, ABF, eh bien, on est à quelques pourcents en dessous de 5 de taux effectif. Le taux effectif d'imposition, c'est les impôts payés divisé par le résultat avant impôt au niveau comptable. Le taux nominal, c'est celui prévu par la loi, 25%. Et donc, dans les plus grandes entreprises, on a tendance à avoir une base imposable très inférieure au résultat comptable. Et cela principalement en raison des soustractions que nous n'avons pas encore vraiment vues. Je n'ai cité que de petits éléments ici, permis notamment par un déploiement international de ces entreprises. Du côté, mais je ne prends pas de questions, vous pouvez venir me voir à l'interruption. Du côté des PME, eh bien là c'est plutôt l'inverse. Leur taux effectif est souvent supérieur au taux normal. Leur taux effectif sera supérieur donc à 20% dans la nouvelle législation. Les petites et moyennes entreprises, c'est l'inverse qui se passe. Pourquoi ? Parce que d'une part, elles n'ont pas toujours l'occasion d'exploiter, parce que n'ayant pas un déploiement international, certaines des choses dont je n'ai pas encore parlé, mais aussi en raison d'autres choses, les dépenses non admises. Les dépenses non admises constituent une part beaucoup plus considérable dans les PME que dans les banques. Dans ces dépenses non admises, qu'est-ce qu'il y a notamment ? Les frais de voiture, les frais de restaurant. Je l'ai dit, même des amendes. Dans les plus grandes entreprises, c'est rare qu'elles payent les amendes. Hein. Dans la PME, hein. Dans une grande entreprise, on n'osera pas dire aux chauffeurs de camions rouler au-delà des limites de vitesse. On n'osera pas. Dans une PME, okay, il faut que ce soit livré. Hein. Il fallait le camion à 130, il le faut. Tu dépasses les heures, c'est la réalité. Et dans une PME, on mange beaucoup. Dans une PME, c'est pas rare que le patron paye rentre les frais aussi de restaurant, de toute sa famille. Dans une grande entreprise, non. Les employés subalternes n'ont pas le droit de faire ça, et le patron qui le fait, il vole dehors. En termes d'éthique, et puis parce qu'on dit, il a déjà un salaire d'un million d'euros par an, il ne va pas commencer à tricher pour quelques... etc. Donc, proportionnellement, les DNA représentent beaucoup dans les PME. Et puis, il y a toutes ces voitures, etc., etc. Donc, voilà pour ce qui est de ce point, résultat comptable et résultat fiscal. Alors, sur cette section 2, je voudrais encore dire autre chose, c'est qu'on pourrait considérer ça sous un autre angle, qui est de voir qu'est-ce qui se passe du point de vue fiscal à partir des affectations du résultat comptable. Si je mets mon résultat comptable en réserve, je le réserve. Et si je fais ça, si je mets mon résultat comptable en réserve, qu'est-ce qu'il y aura comme impôt ? Mais il n'y aura que l'impôt des sociétés. Le résultat comptable mis en réserve est un résultat qui subit l'impôt des sociétés, par définition, puisque, on le voit, c'est dans la base comptable à l'impôt des sociétés. Rien de chinois dans ce que je viens de dire. Deuxième possibilité, je distribue des dividendes, et je suppose à des actionnaires personnes physiques. Mais là, les dividendes, ils font partie de la base imposable. Donc, ils vont subir l'impôt des sociétés. Mais les dividendes, nous l'avons vu ensemble, Les dividendes, c'est une des 5 sous-catégories de revenus mobiliers des personnes physiques. Donc, ça subira l'impôt des sociétés plus l'IPP, mais attention, pas l'IPP progressif, l'IPP précompte mobilier libératoire dans la plupart des cas, hein, 30% actuellement le taux normal de ça. Les dividendes, ça coûte cher. Il faut qu'il n'y en ait pas. Et puis, si le résultat affecté devient des tantièmes, les tantièmes ne font pas partie de la base imposable à l'impôt des sociétés. Donc, pas d'impôt des sociétés sur les tantièmes, mais par contre, les tantièmes, ça fait partie des revenus professionnels de l'administrateur personne physique. Ça fait partie de ses revenus professionnels. Donc, ça va subir quoi ? Ça va subir l'IPP progressif. L'IPP progressif. Alors, ceci débouche sur quoi ? Ben, sur des questions d'optimisation fiscale. Ça va déboucher sur de l'optimisation fiscale et l'utilisation des sociétés à des fins fiscales. Si nous avons autant de sociétés en Belgique, c'est pas parce que, essentiellement, c'est pas en raison de la responsabilité limitée. Est-ce qu'un avocat a besoin d'une société pour se protéger de sa responsabilité? Vous l'avez vu avec Patrick De Wolf, l'argument en droit des sociétés de constituer une société, c'est essentiellement la question de la responsabilité limitée. Mais je prends précisément une société d'avocat. Une société unipersonnelle d'avocat. Allons. La responsabilité individuel d'un avocat, elle est très, très rarement mise en cause. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a tant de SPRN unipersonnels d'avocats ? Pour des raisons fiscales. Alors, je ne vais pas me focaliser sur les avocats, mais supposons, par exemple, que vous êtes l'informaticien en chef vous êtes l'informaticien en chef de la principale société de vente par correspondance en Belgique, par Internet en Belgique. Vous êtes l'informaticien en chef, vous êtes très bien payé parce que vous devez garantir la sécurité de ce site. Vous devez être mobilisé jour et nuit en cas de panne. Vous devez vous adapter aux innovations de la concurrence, etc. etc. Vous êtes l'informaticien en chef de cette société de vente par Internet. Et votre salaire est de 500 000 euros par an pour l'employeur. 500 000 euros coût pour l'employeur. Il n'y a pas énormément de gens qui gagnent ça, mais il y en a qui gagnent plus encore. Hein. Donc, je prends un exemple pour bien voir pourquoi il y a ce genre de société. Un partenaire de Big Four, ça gagne ça, hein, s'il est de première catégorie. Un joueur de football de première division, ça gagne ça, en général, sauf peut-être au standard. Il perd tout le temps. Mais, voilà. Donc, vous êtes salarié avec un gros salaire. Qu'est-ce que vous avez de tout ça? Qu'est-ce que vous avez en main? Ça coûte. Donc, le coût employeur, c'est 500 000. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je sais que tu vas faire la pause, mais c'est pas grave, ça va lui un peu plus tard. Mais il y a l'ONSS patronal. L'ONSS patronal, alors c'est en diminution. Le 1er janvier 2019, il y a une forte diminution des cotisations patronales. Et je vous donne un mélange d'explications. Donc, ce n'est pas tout à fait adapté dans le temps, mais beaucoup ont constitué ces sociétés à une époque. L'année prochaine, les taux des cotisations patronales, c'est 25% seulement, contre 35% aujourd'hui. Grosse diminution. Ne l'oublions pas, 2019, c'est les élections. Et donc, il ne faut pas croire que les libéraux ont nécessairement perdu les élections. Ils ont, dès à présent, ils ont programmé des réductions d'impôts spectaculaires le 1er janvier, qui ont été votées il y a plusieurs années. Donc, ONSS patronal, ici, aujourd'hui, 35%, 135e, un tiers. Donc, j'enlève ici à peu près 165 000 euros. Donc, il me reste 335 000. Ça, c'est le brut. De ça, cotisation personnelle d'ONSS. ONSS personnel. Et ça, c'est 13,07%. Ça n'est pas modifié l'année prochaine. 13,07%, sauf exception, mais pas applicable à des cas comme celui-ci. 13,07, ça nous fait 39, ça nous fait à peu près 45 000. J'arrondis pour ne pas vous couper avec des chiffres trop compliqués. Donc, j'arrive à ce qui reste 290 000. Et sur ces 290 000, qu'est-ce qui se passe? Mais l'impôt des personnes physiques progressif. IPP progressif. IPP progressif. On va atteindre la tranche très vite de 50% plus taxe communale additionnelle. Donc, avec les tranches un peu inférieures, j'ai 140 000 d'IPP progressif, à supposer qu'il n'y a pas d'enfant, etc., etc. Mais son enfant, c'est l'informatique, il n'y a pas le temps de s'occuper d'autre chose. Donc, 150 000. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce qui lui reste aujourd'hui pour un coût employeur de 500 000. Qu'est-ce qu'il vient dire maintenant à la... au grand patron de la firme de correspondance? Il va lui dire, eh bien mon ami, je vais faire comme toi. Toi tu le fais depuis des années, je vais faire une société de management. Je vais intercaler entre moi, personne physique, et la société de vente par Internet. Je vais intercaler une société de management. Et dorénavant, c'est la société de management qui va te facturer tes prestations. Est-ce que tu es bien d'accord? Si tu n'es pas d'accord, je m'en vais. Pour un certain nombre de personnes, il n'y a pas de problème. Et un chef informatique, ça part plus facilement qu'un joueur de football. Donc, il intercale. Et donc, dorénavant, on facture 500 000 plus TVA. Mais la TVA, elle est récupérable dans mon exemple. C'est pour ça que je n'ai pas pris une banque, contrairement des années précédentes. Donc, cette fois-ci, il y a 500 000 de chiffre d'affaires de la société. Alors, c'est 500 000. Il va quand même se mettre une rémunération de gérant, parce qu'il tient quand même à conserver la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou en tout cas des travailleurs indépendants. Excusez-moi, des travailleurs indépendants. Il veut quand même avoir la sécurité sociale. Il souhaite garder ça, même si il peut probable qu'il en ait besoin, mais on ne sait jamais, il fait un grave accident, il est handicapé pour le restant de ses jours, ça vaut quand même mieux que les soins de santé soient payés par la solidarité. Donc, mettons, et puis il a besoin d'appris quelque chose pour vivre, même s'il travaille beaucoup, hein, mettons, il se donne une rémunération de 100 000. Un coût, 100 000 en travailleur indépendant. 100 000. Reste 5 000 de frais de la société. La société a quelques frais. Lesquels? Ben, la société a, doit tenir ses comptes annuels, doit tenir sa comptabilité, les déposer, payer 2-3 taxes sur les sociétés, voilà, 5 000 euros de frais. Vous allez me dire, oui, j'ai la voiture. Mais, alors on l'ajoute au-dessus ici aussi, parce qu'il avait la voiture là, donc dorénavant il la facture, donc ça ne changerait rien. Donc, la société, il lui reste 395 000. Et de ces 395 000, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est la base imposable. Sous réserve d'autres choses, mais en premier lieu, c'est la base imposable. Donc, impôt des sociétés, 25%, ça nous fait 98 750, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. 98 750 d'impôts des sociétés. Et il reste donc 296 250. Sous réserve de petites erreurs de calcul de ma part. Ça, c'est ce qui va rester. Bon, je n'ai même plus besoin de faire le calcul ici, hein, de ce qui lui reste de ça. Mais je peux le faire. Il a 100 000 de revenus bruts d'indépendant. 100 000 de revenus bruts. Il enlève les cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, hein, qui sont de 16% et plafonnées de toute façon à environ 18 000 par an. Donc, j'enlève 16 000 ici. Ça, c'est l'INASPI. Il reste 84 000. Il reste 84 000. Là-dessus, il paye l'IPP progressif. Je ne vais pas chipoter que l'impact des tranches plus basses est plus important sur 84 que sur 335. Je ne chipote pas. On n'est pas à quelques milliers d'euros près. 40 000 euros ici. Il reste 44 000 de dette. Il reste 44 000 de dette. Et dès lors, mesdames, messieurs, hein, pas à vous dire que la Belgique permet des choses pareilles, hein, mais il lui reste 44 000 de net ici et 296 250 ici. Alors, c'est pas dans sa poche, c'est dans la poche de la société, mais de toute façon, il parvient pas à dépenser tout ça. Il parvient pas. Et ces 296 250, il peut les réinvestir. Il peut les réinvestir en société. Tant qu'il ne les consomme pas en tant que personne physique, tant qu'il n'en a pas besoin en tant que personne physique, c'est bon. Et donc, 44 000 ici de net, plus les 296 000. Mais je répète, ce n'est pas dans sa poche, là. C'est dans la poche de la société. La société lui reste ça, et la société peut réinvestir. Et quand on a 30 ans, comme un joueur de football, mais c'est même vieux pour un joueur de football, quand on a 30 ans et qu'on est chef de la sécurité informatique de la plus grande boîte de vente par Internet, hein, bah, on n'a pas de famille, etc. Le seul bébé qu'on a, c'est l'informatique. Eh bien, 44 plus 296, nous sommes à 340 000 euros, même 250, quand on y est, 340 250. Pour 150 000 ici. En quelques heures, à passer chez le notaire et autres, en quelques heures, sans aucune augmentation de coût pour la société de vente par Internet, il a plus que doublé sa capacité financière. Plus que double. Il est passé de 150 000 à 340 000. Une augmentation de 120%. Ceci explique pourquoi il y a tant de sociétés en Belgique. C'est cette énorme différence entre l'impôt des personnes physiques et qui va donc un peu s'accroître, même si j'ai déjà compté l'impôt à 25% ici. Cette énorme différence. Voilà. Alors, un petit commentaire sur tout ça. Est-ce juste? Est-ce pas juste? C'est sans doute fondamentalement pas juste. Que celui qui est prisonnier d'un statut de salarié, qui ne peut pas travailler avec une société, ben, il va être énormément imposé. Et notamment à cause de quoi? À cause de ceci. L'essentiel de la différence, elle est là. Le poids de la sécurité sociale patronale. Jean-Luc Dehaene, l'ancien premier ministre belge, grand amateur de football par ailleurs, Jean-Luc Dehaene, que vous n'avez pas connu, mais Jean-Luc Dehaene, qui était premier ministre de 1988 à 1999, qui a fait une longue carrière politique, qui a été l'architecte de beaucoup de réformes de l'État, mais Jean-Luc Dehaene, dit dans ses mémoires, il n'a fait qu'une seule erreur politique dans sa vie. Il était modeste comme vous voyez. Une seule erreur politique, c'est d'avoir déplafonné les cotisations de sécurité sociale des travailleurs. Ce qui a eu pour effet ce genre de choses. La fuite vers le statut de travailleur indépendant ou la fuite à l'étranger. Parce que le chef de la sécurité informatique, il a une fonction. De nos jours, est-ce qu'il faut aller physiquement dans le bureau? On peut très bien faire ça en étant établi bien loin d'ici, avec le soleil en plus. Donc, ce système est sans doute injuste. Les perspectives offertes par l'optimisation de l'utilisation d'une société à des fins fiscales, ce qui est l'utilisation dominante pour un grand nombre de sociétés en Belgique, eh bien, c'est sans doute injuste. Mais, vous allez vous dire, mais pourquoi on n'y a pas mis fin? Et je souligne, aucun gouvernement n'y a mis fin. Même ceux avec les socialistes. Et si, après les prochaines élections, le gouvernement est avec les écolos, on n'y mettra pas fin non plus. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'accord possible. En Belgique, le proportionnel fait qu'aucun parti ne peut imposer toute sa vie. Et cette affaire-là, elle est en train de se jouer ces jours-ci à Anvers. La composition du prochain gouvernement fédéral et l'orientation de la politique pendant 5 ans, de 2019 à 2024, elle se joue aujourd'hui à Anvers. Vous savez que Barbe Weber est le maître des cartes là-bas. Il n'y a pas de coalition sauf à mettre le blâme de l'acte. Ce que lui-même ne veut pas. Et si lui ne veut pas, aucun des autres n'est prêt à aller avec le blâme de l'acte. Et donc, il est en train d'essayer de convaincre Brown de faire la coalition avec lui. Vous avez sans doute vu aussi que Jean-Marc Monnet, le nouveau patron des écolos, se positionne clairement comme candidat Premier ministre. Clairement. Et donc, bon, si ça advient, on verra bien, si ça advient, que l'on aurait donc un gouvernement écolo-croune avec un Premier ministre écolo, avec l'ANVA, avec le CDNV et avec le MR, que devient Charles-Michel là-dedans? Les discussions sont quoi? Ce qui part à l'Europe? Il y a un poste de commissaire européen qui est vacant. Donc, il y a de quoi le postuler. Mais même si on a ce gouvernement-là, on ne mettra pas fin à ça. Je ne dis pas qu'on aura ce gouvernement, mais c'est des choses, une des possibilités qui est aujourd'hui en discussion. Personne n'a envie qu'au lendemain des élections, ça soit la crise politique pendant des mois et des mois et des mois. Ça, personne ne veut. Personne ne veut. Et by the way, en premier lieu, il n'en veut pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des discussions aujourd'hui déjà sur la composition du prochain gouvernement. On se doute plus ou moins du résultat électoral. Vous allez dire, tout ça, c'est pas juste du point de vue de l'électeur qui ne s'est pas encore prononcé. L'électeur s'est prononcé le 14 octobre. Et sauf à le supposer versatile, on ne peut pas l'insulter, hein, on va se dire que l'année prochaine, il aura tendance à faire un peu la même chose. Avec quelques variations, mais pas des variations énormes. Ça n'existe pas. Et donc, prenons les paris par la composition du prochain gouvernement. Ça, c'est trop risqué. Partons sur ceci. Aucun gouvernement qui sortira des élections l'année prochaine ne mettra fin, peut-être changera un peu, deux, trois choses. Peut-être. Mais fondamentalement, ceci, c'est ma conclusion, ceci, ça fait partie du consensus belge. Ça fait partie du consensus belge. De se dire, quoi ? Ben, la compensation de la surimposition du travail en Belgique. Hein? La surimposition du travail. Il reste 150 000 sur 500. 70% d'impôts. D'impôts et de la fiscalité. Que la surimposition du travail en Belgique, eh bien, on la compense en permettant un certain nombre d'échappatoires. Ça fait partie du consensus belge. Il ne sera pas mis en cause en mai 2019. Vous en serez juge, le cas échéant, à l'examen de la session de septembre. Que moi, je passerai de toute façon, parce que moi, je me recevrai en session tous les ans. Nous faisons l'annonce. Portée, réserve disponible, réserve indisponible. J'attire votre attention sur le fait qu'il va y avoir des nouvelles catégories de réserves suite au code des sociétés et des associations. Notamment suite à la disparition de la notion de capital dans les SPRM. Bien. Donc, ça, c'est le principe. Mais ce qui va surtout nous occuper dans cette section, c'est quelques modalités particulières. Et celle que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est tout d'abord la question de certaines plus-values sur actions et parts. En effet, le code des impôts sur les revenus prévoit l'exonération des plus-values sur actions et parts, moyennant une série de conditions. Et donc, comment est-ce que techniquement on va assurer ça? Parce que les plus-values sur actions et parts, le mot part va d'ailleurs disparaître dans le code des sociétés et des associations, comment va-t-on assurer cette exonération des plus-values réalisées sur actions et parts hein, que l'on détiendrait en immobilisation financière, voire en placement de trésorerie? Mais on va le faire par une majoration de la situation de début des réserves. Donc, supposons qu'on ait ceci. On a les réserves au 31 décembre 2000, donc on est censé être en 20, donc 19, et le 31 décembre 2020. On a eu toutes les réserves comptables, elles sont passées de, mettons, de 100 000 à 250 000. Donc le mouvement des réserves comptable, c'est 150 000, plus 150 000. Mais dans ces réserves comptables, qui ont augmenté en 2020, il y a en réalité des plus-values sur actions et parts qui sont éligibles pour l'exonération. J'ai revendu un paquet d'actions et j'ai fait 80 000 de bénéfices sur la revente. Ça se retrouve dans ce mouvement des réserves, toutes autres choses égales par ailleurs, pas de dividendes, etc. Ça se retrouve dans le... C'est passé de 100 à 250 parce que il y a notamment 80 000 de plus-value sur action. J'ai revendu des actions et j'ai gagné 80 000. Eh bien, comment est-ce que l'on va assurer techniquement, comment on va assurer l'exonération? Eh bien, le code dit par une majoration de la situation de début des réserves. Donc, on va inscrire ici, majoration début des réserves pour plus-value, 80 000. On majore la situation de début à des fins purement fiscales. On est ici, maintenant, purement dans la déclaration fiscale. On n'est plus dans la compta. Et donc, en faisant ceci, la situation totale de début des réserves, ça devient 180 000. Et la situation finale, 250 000. Donc le mouvement des réserves imposables, toutes autres choses égales par ailleurs, n'est plus que de 70 000. Et ainsi, nous avons bien exonéré les 80 000 de plus-value. Le mouvement comptable des réserves est de 150, mais le mouvement fiscal n'est que de 70. On l'a réduit des 80 qui sont exonérés en majorant la situation de début des réserves pour diminuer le mouvement. Ce n'est pas très compliqué sur le plan mathématique. Donc, voilà le point, le premier point de particulier que je veux voir sur le mouvement des réserves imposables. Mais, je vous l'ai expliqué sur le plan technique, je voudrais maintenant l'expliquer sur le plan pourquoi et à quelles conditions. Pourquoi fait-on ça? Pourquoi l'impôt des sociétés ne s'applique-t-il pas à cette plus-value sur action? Pourquoi? Eh bien, c'est pour éviter la double imposition économique. Ce qu'on appelle la double imposition économique, en l'occurrence, des plus-values. Éviter une double imposition économique. Alors, ceci m'amène à définir une double imposition, mais où est-elle? Où est-elle, cette double imposition? Qu'est-ce qui fait que je fais une plus-value sur des actions? Qu'est-ce qui fait que moi, actionnaire, je fais une plus-value? Quelle est la cause? Eh bien, la cause, normalement, que la société sous-jacente, celle dans laquelle j'avais ces actions que j'ai vendues, que cette société a fait elle-même des bénéfices, ou bien qu'on estime qu'elle va en faire. Qu'est-ce qui fait que des actions prennent de la valeur? C'est parce qu'une société a elle-même fait les bénéfices qu'elle conserve, ou qu'on estime qu'elle va en faire dans le futur. Oui, mais si cette société que je détenais a fait des bénéfices, elle a payé de l'impôt des sociétés. Si elle va en faire, elle va normalement en payer. D'autres choses également par ailleurs. Pourquoi est-ce que moi je devrais aussi payer un impôt des sociétés sur la plus-value? Ce serait la double imposition. Il y aurait de l'impôt des sociétés perçu sur deux contribuables différents. La société détenue, parce qu'elle fait ou va faire des bénéfices, et moi, parce que je suis son actionnaire et que je constate ses propres bénéfices chez moi en réalisant les actions. On veut éviter cette double imposition économique. Donc, l'exonération des plus-values en Belgique est logique. Imposer la plus-value chez l'actionnaire serait ajouter de l'impôt à celui déjà perçu ou à percevoir chez la société détenue. On parle ici de double imposition économique. Par opposition à la double imposition juridique, ça c'est quoi? C'est le même genre d'impôt sur la même base imposable chez le même contribuable. La double imposition juridique est en principe interdite en Belgique. La double imposition économique, elle est autorisée, mais le législateur, le cas échéant, y renonce. La double imposition économique suppose qu'il n'y ait pas cette triple identité. Il faut qu'une des trois identités n'y soit pas. Ici, c'est quoi? C'est le même genre d'impôt, impôt des sociétés, impôt sur les revenus, sur la même base imposable, mais pas chez le même contribuable, l'actionnaire et la société détenue. Donc, voilà la réponse à la question « Pourquoi exonérer les plus-values sur actions ?» Pour éviter une double imposition économique. La question suivante, c'est « Quelles sont les conditions pour avoir cette exonération ?» Et ces conditions sont visées à l'article 192 du Code des impôts sur les revenus. Il y a aujourd'hui trois conditions pour que l'exonération s'applique. Première condition, celle-là existe depuis un quart de siècle et elle est logique. La première condition, c'est que la société détenue, l'ancienne société détenue, la société sous-jacente, comme je l'ai appelée aussi, soit raisonnablement taxée. Si je fais des plus-values sur des actions d'une société des îles Vierges britanniques, British Virgin Islands. Si je fais des plus-values sur des sociétés d'un paradis fiscal en général, il n'y a pas de double imposition. Puisque la société sous-jacente, elle ne paye pas d'impôts, elle est dans un paradis fiscal. Dans ce cas-là, on taxera l'actionnaire en Belgique. Pour avoir l'exonération de la plus-value, il faut qu'il y ait double imposition. Il faut qu'il y ait eu, que la double imposition soit possible. Et donc, la première condition contenue dans l'article 192, qui sur ce point renvoie à l'article 203, ça veut dire ça. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi, comment c'est rédigé, tous les termes techniques, on va gagner un peu de temps, hein. Mais l'article 203, il essaye de mettre dans des textes ce que je viens de dire. Il faut que la société sous-jacente soit raisonnablement taxée. Mais il explique ça en deux pages, d'une manière extrêmement compliquée, pour des raisons que je ne commenterai pas aujourd'hui. Hein. Mais allez lire cet article 203, surtout si vous souffrez d'insomnie. Hein. Ça vous permettra de vous endormir tranquillement. C'est incompréhensible. Et ça a été fait volontairement. Mais pas pour vous permettre de vous endormir, mais pour d'autres raisons que je n'expliquerai pas cette année, faute de temps. Alors, une précision quand même par rapport à ça. Qu'est-ce raisonnablement taxé. Hein? C'est donc ça l'enjeu, notamment de l'article 203. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'une société qui est soumise au taux normal d'imposition dans l'Union, dans un pays de l'Union européenne, ben, elle est considérée comme raisonnablement taxée. Donc, si c'est une société irlandaise, une société irlandaise, ça ne paye que 12,5% de l'impôt des sociétés. Eh bien, 12,5% dans l'Union européenne, c'est raisonnablement taxé. Même si 12,5% au Sri Lanka, ce serait sans doute considéré comme pas raisonnablement taxé. On a en effet un principe de reconnaissance mutuelle dans l'Union européenne, comme vous le savez bien. On a un principe de reconnaissance mutuelle, d'amitié avec 27 autres États membres et une amitié qui se termine avec le Royaume-Uni. Et donc, on ne discute pas du taux d'imposition des autres États membres. C'est d'office considéré comme raisonnablement taxé. Donc, une société belge qui fait des plus-values sur des actions d'une société irlandaise, malgré le 12,5%, on pourrait aller plus loin, l'Estonie avec ses 5%, eh bien, on doit considérer que c'est en ordre. Première condition donc, la société sur les actions de laquelle je fais ma plus-value doit être raisonnablement taxée. Deuxième condition, il faut détenir les actions pendant un minimum d'un an. Un minimum d'un an. Ceci, par contre, n'est pas directement en lien avec la double imposition. Ce n'est pas parce que je revends après 6 mois que je vais subir moins de double imposition que si je revends après plus d'un an. Donc, cette condition de détention minimale qui a été introduite sous le gouvernement Di Rupo, cette condition de détention minimale, elle s'explique essentiellement par des raisons budgétaires. On a voulu taxer quand même un peu des plus-values. On pourrait aussi dire que c'est une condition qui vise à éviter les spéculations à court terme. Oui, ok. Et donc la deuxième condition, c'est détention depuis au moins un an. Si je ne détiens pas depuis un an, ouais, je payerai l'impôt en tant qu'actionnaire. Et la troisième condition, elle a été introduite, elle, sous le gouvernement Michel, également pour des raisons budgétaires, dans le cadre de la réforme de l'impôt des sociétés de la loi du 25 décembre 2017, à titre de mesure compensatoire à la baisse du taux. La loi du 25 décembre 2017, son effet le plus spectaculaire, c'est les 33,99 qui deviennent 25. Et donc, on a voulu un peu compenser le coût de ça. Et donc, on a introduit une troisième condition à l'exonération des plus-values sur actions, c'est que je détienne 10% de la société participée ou que j'y ai investi 2,5 millions. Donc, l'exonération ne vaut plus aujourd'hui que si aujourd'hui, 2020, mais c'est déjà fait maintenant en 2018, il faut que je détienne au minimum 10% de la société participée, de la société sous-jacente, ou que j'y ai investi, que j'ai acheté des actions, ou que j'ai fait un apport initial, ou que je les ai rachetées par la suite, 2,5 millions d'euros. Alors ici, mesdames, messieurs, petit moment de réflexion. Qui pâtit de ça, la troisième mesure? Quel genre de société? Quel genre de société on risque de ne pas pouvoir remplir la troisième condition? Les PME. Pour une très grande entreprise, bon, les 10%, c'est déjà un gros paquet. 10%, ça veut dire qu'il ne s'agit probablement pas de placement de trésorerie. J'ai de la trésorerie excédentaire, je l'investis en bourse, mais qui prend 10% dans une société en bourse pour placer sa trésorerie? Ni les grandes, ni les petites. 10%, c'est d'ailleurs un risque. On ne diversifie pas. Donc, la condition de 10%, bon, elle frappe de manière équivalente les grandes et les petites. 10% de la société en dessous. Oui, mais 2,5 millions. 2,5 millions, l'autre échappatoire, c'est 2,5 millions. Prendre 2,5 millions dans la BNBF, c'est à la portée de n'importe quel gestionnaire de trésorerie d'une société du Bel 20. Hein. Bon, l'IRSTAR n'a plus les moyens, n'est plus dans le Bel 20 non plus, mais sinon toutes les autres, c'est à la portée de n'importe laquelle. Hein. Même Bifost peut trouver 2,5 millions d'euros. Hein. Ils sont prêts à engager 1000 personnes, paraît-il. Donc, dans une grande entreprise, un placement de 2,5 millions d'euros, ça... On ne s'adresse même pas au conseil d'administration pour une petite somme comme ça. C'est pour le CEO, pour l'administrateur délégué. Mais quelle PME à 2,5 millions? Et puis, même à 2,5 millions, c'est sans doute très significatif. Ce serait de nouveau aller contre la diversification, qui est un principe de base, pour une bonne gestion de portefeuille, une bonne gestion de trésorerie. Donc, cette troisième mesure... Cette troisième mesure prise sous le gouvernement Michel, avec les libéraux des deux sexes linguistiques, avec la NVA, mais c'est une mesure pas favorable au PME. Vous vous demandez peut-être pourquoi on fait ça alors. Pourquoi un gouvernement qui est censé être un gouvernement dont les électeurs sont plutôt sensibles au PME, je cite en tout cas la NVA, le MR et le BLD, et même le CDNV, pourquoi il a fait ça? Ben, il fallait quand même compenser la baisse du taux. Hein. Et ça, c'est un des... le grand objectif de la Belgique en impôt des sociétés, aujourd'hui, c'est quoi le premier objectif? C'est l'attractivité internationale de la Belgique. C'est ça le premier objectif. Et défavoriser les PME dans leur gestion de trésorerie, eh bien, tout le monde s'en fout de ce point de vue-là. Tout le monde s'en fout de ce point de vue-là. Voilà donc pour ce premier commentaire particulier sur les bénéfices réservés imposables, qui est la situation des plus-value sur action, que l'on traite donc par une majoration de la situation de début des réserves pour éviter la double imposition économique et moyennant le résultat, moyennant le respect de trois conditions. Je vais arrêter ici aujourd'hui, sinon je vais rester au milieu d'un raisonnement. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.